C'est Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour l'Intégral Sport jusqu'à 19h sur RMC. Une heure pour revenir sur l'actualité de jour avant de laisser la place à Bartoli Time, votre rendez-vous dominical à 19h avec Marion Bartoli. Et je peux déjà vous donner un très beau programme. Richard Gasquet sera l'invité de Marion Bartoli tout à l'heure. Mais nous, au menu de ces 60 minutes, on va revenir sur la demi-finale de Ligue de Champions Cup entre Toulouse et les Harlequins. Les Toulousains en finale, victoire 38-26 face aux Londoniens, les Toulousains qui retrouveront le Leinster le 25 mai prochain au stade de Tottenham pour un nouveau titre, une huitième finale pour les Toulousains dans leur histoire. On retrouvera nos envoyés spéciaux et Yann Delegue en direct du Stadium de Toulouse. Dans l'actualité, les championnats de France de VTT, ça se passait à Levens dans les Alpes-Maritimes. Jordan Sarrou, le champion de France, sera avec nous. Il sera très probablement aussi l'un des deux représentants français aux Jeux Olympiques en VTT. Il nous parlera de cette préparation avant cette date fatidique du 29 juillet où aura lieu cette épreuve de VTT à Élancourt dans les Yvelines. Chez les femmes, sachez que c'est Loana Lecomte qui s'est adjugée un quatrième titre national en l'absence de Pauline Ferrand-Prévot. Le Giro, on parlera beaucoup vélo. Tadej Pogacar remporte la deuxième étape et s'empare du maillot rose de leader du classement général. Valentin Paré-Peintre, coureur de la formation Décathlon AG2R La Mondiale, sera notre invité quelques minutes après la fin de la course. Et puis on parlera Ligue 2, enfin plutôt Ligue 1. C'est Christophe Pélissier, l'entraîneur d'Auxerre, qui sera notre invité. La JA quasiment Ligue 1 après sa victoire hier face au Paris FC. 6 points d'avance à 2 matchs de la fin et plus 20 à la différence de but. De retour à Toulouse dans un stadium presque toujours incandescent. Il y a de l'ambiance. Yann Delegue de la Dream Team est avec nous. Salut Yann.
Salut à tous.
Tu confirmes, petit tour d'honneur là, j'ai l'impression, si ça a
peu dit. Grand tour d'honneur, les gens sont restés en tribune bien sûr après ce spectacle fantastique qu'on vient de vivre. Les gens ont envie de fêter ça avec leurs joueurs et c'est vraiment magnifique. Même les Anglais sont restés sur la pelouse.
On est des chanceux.
Salut Wilfried. Oui, hello. Vous êtes des chanceux, on célèbre même.
Salut,
on
a comment. Bonsoir à tous et à tous.
Match débridé. On a quand même eu une petite frayeur. On rappelle, le Stade Toulousain menait 31-12 à la pause, plutôt tranquille à l'image d'ailleurs, on en parlera un peu, d'un Leinster hier contre Northampton. Et finalement ça a un petit peu tremblé en deuxième mi-temps.
Exactement, un peu comme hier, c'est vrai, parce que je crois qu'il y avait même 20-0 à un moment pour le Leinster avant que Northampton revienne à 20-17. Là c'était le cas, tu l'as dit, 31-12 avec des essais de Lebel, Movaca, Flamand et un doublé de Dupont contre un essai de Smith et d'Evans. On se dit, Yann, que ça va rouler. Et puis patatras, deux essais anglais, 46e, 53e de Murley et de Green qui ramènent les Anglais à 31-26. Et puis Yann, on sentait que
ils avaient pris un peu le dessus.
Ça avait tourné,
les Anglais plus performants. À un moment donné, ils avançaient sur les contacts, ils arrivaient à contrer les offensives de Toulouse, ils prenaient les ballons de récupération, ils mettaient le feu au terrain. Et on s'est dit, mais le vent tourne, et qu'est-ce qu'ils vont nous faire ces Anglais, est-ce qu'ils vont aller plus loin, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à gagner ce match? Et heureusement pour les Toulousains, il y a eu une faute sur Dupont.
Un carton jaune à
Walker. C'est clairement l'indiscipline qui fait basculer la rencontre. Vous qui avez commenté le match, vous sentez que c'était à moins d'un essai transformé d'écart, c'était chaud.
Oui. À 5 points, franchement, on tremblait presque sur chaque attaque des Anglais, parce que quand ils attaquent, ils le font bien.
Très très bien.
C'est un danger permanent. Avec des joueurs qu'on disait qui ne sont pas forcément les noms les plus clinquants du rugby européen. Mais l'arrière sud-africain Tyrone Green, là, il a mis le feu aux quatre coins du terrain. Et puis Walker, le talonneur, a mis un coup de tête à Antoine Dupont sur le bord derrière, qui a pris un jaune. Et derrière, il y a eu l'essai de Malia qui a porté le score à 38-26. Mais on en parlait. Et Kian, Arnaud, s'il n'y avait pas eu ce carton jaune,
on ne sait pas. On
sait pas l'interrogation.
On sait pas. En tous les cas, on n'était pas dans une période de confiance. Et on sentait aussi que cette équipe de Toulouse vacillait un petit peu. Alors bon, ils ont réussi à remettre la main sur ce match après ce carton jaune. Mais c'est vrai que ça a été une donnée importante dans ce match quand même.
Qui en écoute, messieurs, Romain Tamac au micro de France 2 juste après la victoire.
On n'a pas réussi à garder le rythme qui était notre en première mi-temps. Il faut dire qu'ils nous ont mis à mal aussi en revenant très fort. Donc c'est bien parce qu'on a fait le dos rond, on n'a pas craqué. Même si on était dans un temps assez faible tout le long de la deuxième mi-temps, on est resté soudés. On n'a pas lâché. On a eu assez de ressources pour avoir un peu le score un peu plus large à la fin pour ne pas se faire trop peur. Donc on fait une super première mi-temps face à une super équipe d'Harlequins. On savait exactement à quoi s'attendre. Donc, félicitations à eux, ils sont pas là par hasard et nous on est super heureux.
On a senti le métier, l'expérience quand même. Là, je m'adresse à toi, Yann. Je me souviens d'une demi-finale contre le Munster, assez chaude, hein, en 2003. Et vous aviez gagné derrière le titre de champion d'Europe face à Perpignan. On vous avait senti, et tu as senti, Yann, l'expérience aussi de cette équipe de Toulouse, parce que la Coupe d'Europe, c'est leur dada, hein.
Oui, effectivement, on sentait, c'est des joueurs très expérimentés, ces Toulousains, hein, avec des leaders de jeu. Donc effectivement, ils étaient là, ils étaient quand même bien là. Et à la fin de match, ils ont très bien géré. C'est-à-dire que dès qu'ils ont mis cet essai-là, ils ont un peu fermé les vannes. Alors effectivement, les Anglais ont mis le feu aux quatre coins du terrain. Mais à chaque fois, la défense a veillé au grain. Finalement, ils se sont toujours bien reconcentrés pour repousser toujours cette équipe anglaise jusqu'à la délivrance et au coup de sifflet final. Mais il fallait tout aujourd'hui quand même, il fallait tout. Hein.
Tu sens, Wilfried, que est-ce que c'est la première fois qu'une équipe a autant bousculé les Toulousains là, sur cette dernière période,
sur cette Coupe d'Europe, sur cette saison de Champions League,
les dernières semaines, on va dire plutôt.
Ouais. Ah oui, ça avait été dur un peu en poule, le dernier match de poule contre Basse, 31-19, ça avait été un peu difficile.
Et la première période sur le quart de finale contre Exeter aussi.
Oui. Mais après, ils avaient explosé, ils auraient mis 60 points. Franchement, là, on arrive dans le dernier carré. On arrive dans le dernier carré de Champions Cup. Donc, les Harlequins ne sont pas là par hasard. On l'a vu, ils ont gagné 42-41 à l'UBB. Il fallait le faire parce que l'UBB, c'est costaud cette année. Donc, oui, ils ont été poussés dans leur retranchement. Franchement, et peut-être Yann que c'est, alors je veux dire c'est pas plus mal, mais ça avant la finale, si c'est, ouais, si c'est moins fluide, il y aura quelques remises en question, des questionnements sur ce match avant la finale.
C'est un avertissement sans fin en quelque sorte, c'est-à-dire que les joueurs aussi savent que ils sont dominants aujourd'hui, mais pas sur toute la partie du match, et qu'à des moments donnés ils ont un peu le feu, et c'est là aussi où ils ont su finalement se regrouper, se concentrer pour revenir dans ce match. Et de toute façon, pour la finale contre Leinster, on sait d'ores et déjà qu'il y aura des temps forts irlandais, il y aura des temps un peu plus faibles toulousains, ils seront de temps en temps dominés dans la partie, et c'est là où il faudra faire le dos rond, il faudra être solide, pas prendre de points ou le minimum possible, parce que sur les temps forts de Toulousain, on sait aussi qu'ils vont marquer des essais.
Ça veut dire que cette équipe-là peut encore progresser.
C'est pas une bonne nouvelle pour toutes les autres équipes, mais je pense que oui.
Oui, parce que Arnaud, la saison toulousaine est quand même, quoi, ils sont deuxième du top 14 avec des matchs probants, le parcours européen est incroyable, invaincu. Donc si on nous dit qu'ils vont réfléchir et progresser encore, bon voilà, mais ça va nous donner une grande finale, Arnaud aussi.
Et qu'ils ne vont pas s'arrêter là. On va évoquer cette finale dans un instant aussi. Vous allez donner vos bons et vos mauvais points sur la performance toulousaine, mais on écoute François Cros au micro de France 2 sur le fait que c'était interdit de perdre à domicile
avant la finale. Voilà, il y a la demi, en plus on était chez nous, on savait que ça allait être une belle atmosphère et on n'avait pas le droit de perdre aujourd'hui. Donc voilà, c'est important d'avoir réussi à franchir ce cap, et maintenant on peut penser à la finale. Mais voilà, c'est une bonne chose d'avoir pu offrir un chouette match à nos supporters.
On peut penser à la finale. Bon, il y aura aussi le top 14 qui va évidemment s'immiscer entre. On rappelle, ouais, la date de cette finale, samedi 25 mai dans le stade de Tottenham, 15h45 face au Leinster. Les bons et les mauvais points, évidemment, quand on voit Antoine Dupont, deux essais marqués, on a tout de suite envie de lui donner les bons points. Hein.
Bon, il est indispensable, Antoine Dupont. Hein. Il y a pas, je ne me souviens pas d'une mauvaise chose qu'il ait pu faire. Faut savoir que c'est.
Et
c'est
un carton jaune provoqué aussi.
Ouais. C'est celui qui fait le plus de passes après contact, le plus de franchises. Le deuxième dans cette Coupe d'Europe, 2 mètres parcourus, il est stratosphérique depuis des semaines, Antoine Dupont, que ce soit jeu au pied, défense, pas le même Toulouse avec ou sans lui.
Oui, et puis le facteur confiance de ses partenaires, confiance dans son équipe, c'est ça qui est génial aussi, c'est que quand il est sur le terrain, il rassure tout le monde quelque part. Ça, c'est le côté psychologique, et effectivement, tu l'as dit, pour tout le reste, le joueur, le jeu, il est extraordinaire, et on le voit à chaque fois qu'il touche un ballon, on s'attend à quelque chose, les défenses peine à le plaquer, à chaque fois il repousse les joueurs, il met du rythme, il met de la vitesse dans son jeu, il fait des bons choix. C'est pas le meilleur joueur du monde pour rien.
Ouais. Il y a d'autres joueurs que tu veux mettre en avant peut-être. C'est vrai qu'on a vu Paul Coste assez inspiré chez les trois quarts.
Ouais, Paul Coste.
Enfin, François Cros, c'est le joueur du match aussi. François Cros, on parle pas souvent. Ouais, c'est pas celui qu'on le voit plus, mais il va mettre les mains dans le cambouis.
Il va au charbon, ouais, effectivement. Après, Pitaki, à son niveau encore, a compensé, à réguler la défense collective sur une défense individuelle, sur l'homme, implacable aussi. Ballon en main, il fait toujours avancer. Donc, c'est des joueurs importants dans le dispositif du Stade Toulousain sur des rencontres. compte de sa haute intensité. Et non, après c'est difficile aussi Mouvaka aussi dans la période, dans la première période, c'est, il a été incroyable.
Parce qu'il
aussi,
y a match aussi, il y a deux internationaux qui se partagent le poste. Et Mouvaka est titulaire depuis des semaines.
Ouais, voilà, c'est mérité, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Marchand a été gravement blessé pendant la période Coupe du Monde. Et depuis qu'il est revenu, il est au niveau, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est vrai qu'il était titulaire avant la Coupe du Monde et maintenant il est un petit peu moins titulaire sur ces matchs-là.
Avec Christophe Cessieux, juste avant, vous évoquiez un petit peu le cas de l'arrière, Blake Kinghorn, avec Thomas Ramos qui est rentré en cours de match, certes à la place de Mathis Lebel. Est-ce que là, clairement, on parlait de remettre un petit peu aussi de la concurrence, cette marge de progression? On se pose une question sur ce poste d'arrière.
C'est compliqué, hein, parce que faut savoir, Arnaud, que Yann, que Thomas Ramos, c'est un taulier du vestiaire toulousain. Il vient depuis longtemps, un gagneur, qu'il est pareil en équipe de France, qu'il a un statut en équipe de France. Et quand vous arrivez là aujourd'hui, match de phase finale, il est sur le banc parce que Kinghorn est excellent, l'international écossais depuis des semaines. Mais on le disait, est-ce que après ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a quelque chose qui peut changer dans cette hiérarchie, ou décaler peut-être Kinghorn à l'aile pour permettre à Thomas Ramos de le mettre à l'arrière?
Ouais, c'est difficile de savoir ce qui va se passer pour la finale, mais moi, il y a quelque chose quand même qui me semble évident, c'est que Thomas Ramos est très fort au pied, notamment sur les tirs au but.
Au but, ouais.
Et ça peut être très important sur un match de phase finale, sur une finale notamment. Donc peut-être qu'il a plus de sens de jouer par rapport à ce secteur-là en particulier. Mais on parle de détails parce qu'après, dans le jeu, les deux joueurs sont excellents. Kinghorn apporte aussi beaucoup de choses, notamment sur le jeu au pied où il est très bon en l'air pour récupérer les ballons. Là, à l'aile, il a été plutôt bon, hein, quand Ramos est rentré, il a été plutôt pas mal à l'aile. Il y a plusieurs de joueurs dans cette équipe, c'est très difficile de sortir un 15. Donc je verrai
ce problème, on laisse ce problème au staff.
Ouais, voilà, chacun son métier. Hein,
juste Arnaud, pour la précision, Kinghorn, il bute en 8e, il fait 50%, il bute en quart, il fait 100%, et aujourd'hui il fait 60%. Mais le très bon but est entre 80 et 90% à ce niveau-là, et sur une finale,
c'est important.
C'est un très important. Ouais. Ça peut être décisif.
Absolument. La finale contre le Leinster, est-ce qu'on a déjà eu une finale Toulouse-Leinster? Je regarde un petit peu les années. Je me demande si on n'est pas sur une première. Hein.
C'est la première fois. C'est la première fois. Ils se sont affrontés en demi-finale.
Beaucoup en demi. Ouais.
Beaucoup en demi. 2019, 2022, 2023. Mais pas en finale. Donc c'est une première, mais on le disait, ce sont deux géants. Ouais. 5 victoires pour Toulouse, 4 pour le Leinster, 8 finales de chaque côté. Je disais, les deux premiers de poule au classement de toutes les poules. Premier pour Toulouse, deuxième pour Leinster.
C'est logique et mérité. Normalement, le sport, on dit toujours qu'il y a des surprises. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup. Mais effectivement, ces deux géants, de par leur histoire, par rapport à l'historique de ces clubs-là dans cette compétition, mais c'est aussi deux géants actuellement avec énormément d'excellents joueurs. Quasiment l'équipe d'Irlande pour cette équipe de Leinster. Hein, c'est des joueurs qui jouent à très, très haut niveau, qui ont participé à la Coupe du Monde. Et du côté du Stade Toulousain, tu le disais tout à l'heure, c'est une dizaine de joueurs qui jouent régulièrement en équipe de France. Donc voilà, c'est du top niveau, c'est du super niveau. Et il n'y a pas trop de doute, cette finale sera magnifique.
Avec l'enjeu pour les Toulousains qui sont le recordman de la compétition avec 5 victoires, le Leinster est derrière. 4 victoires.
Soit ils rejoindre, soit ils les mettent à 2 victoires. Mais je pense qu'il y a de la frustration. C'est des dernières années du Stade Toulousain éliminé 2 fois à Dublin en demi-finale contre eux. Voilà, ça va être peut-être le moteur. Hein, ça suffit maintenant.
Mais oui, c'est justement la crainte qu'avaient les coachs, c'est-à-dire de se dire, on pense déjà à la finale pour aller taper cette équipe de Leinster, parce qu'évidemment les Toulousains sont revanchards et il fallait pas passer à côté de cette demi, parce que c'est bien beau d'avoir la finale en tête, mais il faut d'abord passer
pour aller jusqu'à la finale.
Exactement. Et donc effectivement, ils auront à cœur de se venger en quelque sorte, hein, des deux demi-finales perdues contre le Leinster. En plus, si je me rappelle bien, ça a été des scores
40 points.
Ouais, 2 fois 40 points, il me semble. Ouais. Donc ils sont un peu énervés, les Toulousains, et ben on espère que les Français vont enfin gagner cette finale contre leur bête noire des demi-finales, quoi. Les Toulousains peuvent être la bête noire en finale de Leinster et que nous on reste la bête noire en demi-finale, ben ça me va.
On en connaît une bête noire. Bon, elle est plus là, hein. C'est le Stade Rochelet. Hein.
Ouais, il faut qu'il passe un coup de fil à la Rochelle. Ouais, ouais,
c'est vrai.
41-22.
Je suis pas sûr que Ronan O'Gara et Hugo Mola vont échanger, d'ailleurs. Hugo Mola.
Je suis pas sûr qu'ils aient le numéro de l'un et de l'autre.
On écoute Hugo Mola, le manager toulousain, sur la difficulté ou non de battre son équipe.
Vous savez, quand dans le staff vous avez des Clément Poitronneau, Jean Bouillou qui ont 3 titres de champion d'Europe, 4 titres de champion de France, il leur reste du chemin à faire. Évidemment, ce club a beaucoup gagné, mais cette génération a les moyens de faire beaucoup. Maintenant, on va aller face à notre némésis, à notre ogre, à l'équipe qu'on a du mal à battre. Mais on ne les a jamais joués dans ce contexte-là. Donc, on va dire qu'on n'est pas facile à battre en finale, apparemment. On n'arrivait pas à les battre en demi. Ben, écoutez, on va voir ce que ça donne sur la finale.
Hugo Mola, au micro du diffuseur France 2, il donne le ton déjà. Hein. Le némésis, ah oui, mais attention au contexte final.
Oui. Mais je disais, Toulouse sait faire. Toulouse, 5 victoires, que 2 défaites en finale de Coupe d'Europe.
2004-2008, et... ça remonte en plus. Hein.
Ouais, mais n'en parle pas trop à Yann. Hein, parce qu'il ouais. y était en hein, 2004. Ouais, ouais. Donc,
Mais il était là en 2003 aussi.
Oui, j'en ai
parlé bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, les finales, ça joue des fois très peu de choses.
Ah oui,
il y a des battues qui mériteraient. Ouais, je pense à la dernière entre Toulouse et La Rochelle au Stade de France, hein, qui s'est joué sur un éclair de ouais, Tamac à la fin. Et voilà. Bon, moi, je pense, enfin, pour avoir vu un peu le Leicester ces derniers temps, j'ai trouvé un poil moins dominateur dans la symphonie de leur jeu. Peut-être plus en frontal. Et Toulouse, j'ai l'impression qu'ils sont obnubilés par ça depuis
le début. Non, mais c'est vrai que les signaux sont plutôt favorables à Toulouse, je suis d'accord avec toi. Maintenant, une finale, c'est un match.
C'est les matchs, faut les jouer, comme on dit.
Ouais, faut les jouer, non, mais c'est un match. Et puis, c'est tu joues ton palmarès, quoi. Tu vois, toi, quand t'as été joueur, il y a des trucs qui restent, c'est les titres. Le deuxième, on s'en fout du deuxième, toi. Donc, voilà, c'est des moments importants dans une carrière, dans une vie d'homme. Et voilà, faut aussi le gérer, cette émotion-là. Tu vois, c'est ce qui s'appelle la pression, hein, mais c'est une pression positive parce que là, c'est que du bonheur quand même. Quand tu vas jouer une finale, c'est dingue. Mais voilà, ça sera un match très, très compliqué pour Toulouse et j'espère encore plus compliqué pour les Irlandais.
Et la date, samedi 25 mai, Stade Toulousain, Leinster, à Londres, 15h45, heure française. Évidemment, ce sera un peu plus tôt là-bas. Dans le stade de Tottenham, ça va être aussi une première, hein, un stade magnifique et on espère qu'il y aura quand même plus de rouge et noir que de bleu, messieurs.
Ils ont beaucoup de public. Hein,
Il faut que les supporters toulousains, s'ils nous écoutent dans la voiture quand ils sortent du stadium, là, qu'ils se mobilisent. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est onéreux aussi. C'est un voyage, c'est pas évident. Ça tourne un peu. C'était à Dublin l'année dernière, à Marseille il y a 2 ans. Donc voilà, là c'est à Tottenham. Et on espère qu'il sera rempli et qu'il y aura du rouge et noir. De toute façon, ça sera une très belle fête.
Merci Wilfried Templier, Yann Delegue d'avoir fait un peu de prolongation pour nous dans l'Intégral Sport. Très belle soirée. Donc la qualification du Stade Toulousain face au Harlow Queens en finale de la Champions Cup, la victoire 38-26. On revient dans un instant dans l'Intégral Sport jusqu'à 19h. On sera avec le champion de France de VTT. Cela avait lieu aujourd'hui à Levens dans les Alpes-Maritimes. C'est Jordan Sarrou, déjà présent aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il évoquera son titre cet après-midi, son titre national et puis surtout la perspective des Jeux à Paris pour le cross-country, pour le VTT français. A tout de suite dans l'Intégral Sport.
RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
L'Intégral Sport jusqu'à 19h sur RMC. On sera dans quelques minutes avec l'entraîneur de l'AJ Auxerre, Christophe Pélissier, après la quasi montée de l'AJA, remontée de l'AJA un an après être descendu. L'AJA qui a fait une victoire hier contre le Paris FC et qui est quasiment assuré d'être en Ligue 1 la saison prochaine. 6 points d'avance, il reste 2 matchs et plus 20 différence de but, mais aussi d'être champion de Ligue 2. Mais juste avant, comme promis, direction les Alpes-Maritimes, aujourd'hui se déroulaient les championnats de France de VTT en cross-country. Chez les femmes, Loana Lecomte s'est adjugée un 4e maillot bleu-blanc-rouge. Et chez les hommes, le champion de France est Jordan Sarrou, notre invité, coureur de la formation BMC. Bonjour Jordan.
Bonjour.
Avec une 2e tunique après 2020, mais surtout 3 deuxièmes places de suite. Il y en avait un petit peu marre de cette médaille d'argent, entre guillemets, Jordan.
ouais, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de podiums sur le championnat de France et ce deuxième titre de champion de France, c'est vraiment génial et surtout sur une année olympique, ouais.
27 secondes d'avance sur le deuxième Thomas Griot, Titouan Caro est derrière. C'est presque à chaque fois le même podium. Hein. Chaque saison, vous tirez tous la bourre. Titouan était sur 2 victoires de suite. Il y a aussi eu la manière.
On l'a joué collectif aussi. Avec Tito, on est dans la même équipe. L'an dernier, je lui avais donné un coup de main pour qu'il puisse remporter la victoire. Et cette saison, il m'a rendu l'appareil. Et du coup, c'est super. C'est une victoire collective. Et je suis vraiment heureux de ce titre de champion de France.
Tu disais aussi que c'était très bon pour la confiance.
Exactement, c'est vrai que là j'ai au retour de deux Coupes du Monde, des deux premières manches de Coupe du Monde au Brésil, il y a 15 jours, j'ai fait deux podiums et là le titre de champion de France, donc je suis sur une bonne dynamique et ça donne vraiment de la confiance et de la motivation pour cet été. Ouais.
Florian Rousseau, le directeur du programme olympique à la Fédération française de cyclisme, était notre invité en début d'après-midi. On est sur une fin de période de qualification d'ici la fin du mois de mai. On rappelle que vous ne pouvez pas être trois comme à Tokyo à représenter la France, mais que deux. Tu es évidemment très bien placé, en plus avec ce statut de numéro un au classement mondial. Bon, tant que c'est pas fait, comment tu vis ça? Tu te dis, oui, je m'y vois à Tokyo et je comprends pas si... hors chute ou blessure, je ne le comprendrais pas si je n'y étais pas. Comment tu vis ça? Est-ce que tu attends clairement de voir ton nom proposé pour être présent le 28 et 29 juillet pour cette épreuve de VTT cross-country olympique en Yvelines pour les Jeux Olympiques?
Je suis assez serein parce que j'ai marqué les esprits en ce début de saison et je pense que je peux être serein sur ma préparation maintenant jusqu'à cet été, même si l'annonce n'est pas encore officielle, mais je pense que je suis bien placé pour aller sur ces Jeux Olympiques. Surtout que les Jeux Olympiques à la maison, je pense que ça arrive qu'une fois dans une carrière d'un sportif ou encore, et j'aimerais vraiment être de la partie, ouais.
Est-ce qu'on fait attention, justement, on arrive là dans les dernières semaines de préparation, à éviter la chute, le manque de concentration, parce que on n'a pas envie de tout perdre, et tu l'as dit, ce privilège incroyable de disputer des Jeux à la maison?
Je pense qu'en fait, faut tout simplement pas y penser à la chute, parce que c'est comme ça que ça arrive, et être serein et... se faire plaisir aussi, ça fait partie de la performance. Et c'est tout simplement pas penser au négatif et vivre l'instant présent, quoi.
Est-ce que tu te sens plus armé qu'à Tokyo, même si tu sortais d'une année 2020 assez exceptionnelle, vie avec un titre de champion du monde de cross-country? On en rajoute un aussi en relais mix. Tu avais fait 9e à Tokyo, mais avec peut-être l'expérience aussi des années. Dire.
Je pense que oui, avec l'expérience que j'ai accumulée ces dernières années, notamment l'expérience olympique à Tokyo, j'arrive à maturité de mon sport. Je vais avoir 32 ans cette année, donc je pense que je vis les meilleures saisons de ma carrière, ouais.
Quand tu parles d'expérience, c'est sur la gestion de course. On rappelle, c'est un effort d'à peu près 1h25, 1h30, oui. selon les parcours, c'est-à-dire mieux gérer son effort dans une course, on rappelle, course unique, hein, c'est un jour, il faut être prêt. Oui.
Y a ça, mais surtout, je pense, c'est la prépa avant course. La gestion de la prépa, toute la prépa qui arrive avant, en fait. C'est plus ça, avec l'expérience qui fait la différence, je pense.
Jordan Sarrou, champion de France de VTT, c'était cet après-midi à Levens, du côté des Alpes-Maritimes. Elancourt, vous avez disputé un test event olympique. Je crois qu'il y a aussi des sessions, Florian Rousseau nous le disait, qui étaient prévues pour découvrir aussi un petit peu ce site. Tu as pu prendre des marques déjà, des premières observations?
Oui, on a fait le test event en septembre, donc sur le circuit des Jeux. J'ai terminé quatrième sur cette course. Et on a pu vraiment profiter des séances d'entraînement et de la course pour prendre des informations sur le circuit et travailler en amont sur ça, ouais.
Qu'est-ce qu'il y a comme spécificité? Qu'est-ce qui change par rapport, si on prend le parcours de Tokyo, c'est la façon dont les bosses sont dessinées?
Oui, après c'est assez ressemblant sur l'ensemble du circuit, on va dire. C'est un circuit construit de A à Z, il n'y avait rien avant, en fait. C'est tout de l'artificiel. Et c'est un circuit qui demande beaucoup de tonicité. C'est un mélange de tout, en fait, on va dire, d'endurance, de relance, de mental. Enfin, c'est vraiment un circuit complet, quoi.
Est-ce que ça correspond plus à certains profils de coureurs de cross-country comme le tien, ou c'est ça de toute façon sollicite des qualités que tout le monde doit avoir?
Un peu des deux, on va dire. Je pense qu'on travaille aussi à l'entraînement pour ça et pour envoyer. On fait de la musculation pour travailler l'explosivité. Et après, il y a aussi les qualités intrinsèques de chacun. Mais voilà, c'est du travail vraiment spécifique, ouais.
À partir de quand tu as commencé vraiment à penser aux Jeux Olympiques à Paris dès le début, parce qu'il y a cette période de qualification. On rappelle, vous êtes quand même quatre Français dans le top 10 chez les femmes. C'est vrai qu'il y a Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot qui se détachent bien. On rappelle, réduction du quota par rapport aussi à Tokyo. Il y avait aussi peut-être pas mal d'incertitudes quand vous avez commencé cette période de qualification il y a plus d'un an.
Oui, c'est sûr. En tant que Français, c'est vrai que la concurrence est rude. On est même, je dirais, 5 voire 6 athlètes à pouvoir se qualifier pour les Jeux. Il n'y a que 2 places, donc à la fois c'est top parce que ça élève le niveau en France et voilà. Mais être Français, je pense que c'est vraiment top parce que ça nous tire vers le haut et je pense qu'on peut être encore plus fort avec toute cette concurrence française, quoi.
Et pour conclure, Jordan, le programme là dans les prochains jours, prochaines semaines, encore des courses.
Oui, il y a les Coupes du Monde qui arrivent aussi dans 15 jours, la troisième manche à Nové Mesto en République Tchèque, et puis au mois de juin aussi 2 Coupes du Monde qui s'enchaînent en Italie et en Suisse, donc voilà.
Merci beaucoup, Jordan Sarrouche, champion de France, double champion de France désormais de VTT cross-country, est bien parti effectivement pour la qualification olympique numéro 1 au classement ranking mondial individuel. L'autre Français qui est en ballotage très favorable, c'est Victor Koretsky notamment. Merci beaucoup, Jordan.
Merci, à bientôt.
À bientôt, évidemment, la parole aux athlètes sur RMC, vous le savez, c'est là où on leur donne la parole. 18h28, nous revenons dans un instant dans l'intégral sport. On continue de passer par les vélos. Certes, ça grimpe aussi, c'est différent. Ce n'est pas du VTT, du cyclocross, c'est la route avec le Giro, l'arrivée de la deuxième étape, victoire de Tadej Pogacar au sommet du sanctuaire d'Europa. On sera avec le coureur de la formation Décathlon AG2R La Mondiale, Valentin Paré-Peintre.
RMC, Intégral Sport, Arnaud Valadon.
Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. À 19h, Bartolita, Marion Bartoli, Jean-Christophe Drouet, pour revenir sur les grands temps forts de l'actualité avec un invité de marque. Ce sera Richard Gasquet, le tennisman français, bientôt 38 ans. Richard Gasquet, il nous parlera de Roland Garros, des Jeux, toujours aussi sur le site de Roland Garros. Et sachez aussi que l'after s'adapte. Demain, il y aura Lille-Lyon, grand match de Ligue 1. Vous savez, on ne joue pas ce 5 mai en hommage aux victimes de Furiani. Et ce soir, 20h-22h, exceptionnellement, l'after génération drôle de dame qui sera décalé avec Thibaut Giangrand. On continue de parler vélo. Qui dit vélo dit également Johan Bredov au commentaire de cette deuxième étape du Giro. Salut Johan.
Salut Arnaud, salut à tous.
Avec une victoire, on l'attendait, de Tadej Pogacar qui a une nouvelle fois, après hier également, marqué de son empreinte le classement général.
Ouais, il avait quand même une revanche à prendre sur hier, Tadej Pogacar, où il avait échoué dans un sprint à 3 à la 3e place. C'est très rare pour lui. Il n'avait pas de repère, c'était ce qu'il avait dit. Donc là, aujourd'hui, il a décidé de partir tout seul. Le Slovène, et forcément ça marche. Pogacar qui s'impose donc au sommet du sanctuaire d'Europa. Il prend le maillot rose de leader, 45 secondes d'avance déjà au général pour Tadej Pogacar, hein, sur ses principaux concurrents Geraint Thomas et Daniel Martinez. Donc voilà, un coup immense de la part du Slovène. On l'attendait, il est le grandissime favori de ce Giro et s'est déjà montré donc sur ce premier week-end.
Et qui avait crevé juste avant l'ascension au sanctuaire d'Europa. Hein. C'était une rêve d'Europa, c'était une arrivée en montée.
C'est ça, exactement. Il crève juste avant au tout début d'ailleurs de l'ascension.
Il chute
sans gravité à une allure très faible. Voilà, il y a eu une petite incompréhension avec son équipe qui voulait le dépanner justement après ce virage. Lui, il voulait avant. Il est remonté très vite sur le vélo. Il est très très vite revenu d'ailleurs sur le peloton. Et il est passé directement aux avant-postes, passant devant l'équipe Ineos qui menait le train pendant ce temps-là. Mais voilà, Tadej Pogacar, une chute, c'est pas grave. Une crevaison, c'est pas grave. Tout ce qu'il voulait, c'était taper le maillot rose et c'est fait.
Et une heure après l'arrivée de cette deuxième étape, on est content d'être avec Valentin Paré-Peintre, le coureur de la formation Décathlon AG2R La Mondiale. Bonjour Valentin, merci.
Bonjour, merci à vous de m'accueillir.
Et bah avec grand plaisir aussi. Bon, un début de Giro costaud, hein, que ça soit hier ou aujourd'hui, les organisateurs vous ont tout de suite mis dans le grand bain avec des ascensions.
Ouais, c'est sûr, on s'y attendait que le premier week-end allait déjà faire des différences et on était prêts. C'est pas un week-end où on peut gagner le Giro, mais on pouvait le perdre et on a vu quand même des leaders qui ont déjà perdu beaucoup de temps. Donc voilà, fallait être prêt dès les premiers jours.
Votre leader, c'est Ben O'Connor, qui est dixième au général à 1 minute 24. Quelle est l'ambiance dans l'équipe? Le but, c'était voilà, de ne pas le perdre, comme tu le disais. Il y a aussi Alex Baudin qui est juste derrière aussi. Vous avez quelques coureurs bien placés, mais c'est vrai que Pogacar et UAE ont déjà fait du dégât chez tout le monde. Hein.
Ouais, c'est sûr. On reste concentré autour de Ben. On n'a pas perdu grand-chose. Donc, on est toujours dans l'optique de jouer le podium au classement général, donc que Pogacar gagne avec 6 minutes ou 3 minutes, nous, ça nous change pas grand-chose. On est focalisé sur notre objectif avec Ben pour le podium et on n'a rien perdu, que ce soit hier ou aujourd'hui, donc c'est un bon bilan sur ces deux premiers jours.
Un podium qui est à 39 secondes, Johan.
Justement, en parlant de Ben O'Connor, il a craqué un petit peu, il a essayé de suivre Tadej Pogacar, il a explosé Ben O'Connor. Il n'y a pas d'inquiétude pour la suite, c'est juste là une petite erreur tactique de vouloir suivre le Slovène.
Ouais, voilà, j'ai pu discuter un peu avec lui. Il a vraiment essayé de suivre Pogacar et un peu trop longtemps, je dirais qu'il s'est un peu mis en sur-régime et après il a eu du mal à encaisser le coup. Mais il est en forme et de toute façon, déjà pour suivre Pogacar, il fallait être en forme. Donc c'est sûr qu'il est bien.
Tu as assisté voilà, à sa chute un moment à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée parce qu'on l'a vu chuter, une crevaison. Vous avez été conscient de ça? Comment ça s'est passé?
Ouais, non, j'ai pas été, je l'ai pas vu crever ni chuter. Après, on a été au courant dans les oreillettes au pied de la montée qu'il avait un problème. Donc voilà, mais dans le peloton, je l'ai pas vu ni s'arrêter ni chuter. J'étais pas au courant et on a été au courant au pied de la montée.
C'est vrai que les directeurs sportifs sur ce Giro ont sélectionné quand même beaucoup de grimpeurs, probablement pour accompagner Ben O'Connor avec cet objectif podium sur le général. C'est vrai que ouais, dans cette équipe, vous avez quand même des profils pour accompagner Ben dans les ascensions.
Ouais, c'est sûr. L'objectif numéro un de l'équipe sur ce Giro, c'est le podium. Donc on a essayé de construire une équipe homogène aussi avec des rouleurs capables de faire des placements sur le plat et des grimpeurs capables d'accompagner Ben le plus loin possible. Mais on arrive ambitieux avec une équipe ambitieuse et je pense qu'on a les moyens aussi de réaliser cet objectif du podium.
Justement, ton équipe Decathlon à G2R la mondiale, c'est quand même une saison toute particulière. Hein. Troisième au classement UCI World Tour, vous avez des résultats incroyables, 13 victoires déjà cette saison. Il s'est passé quelque chose quand même cette saison pour ton équipe.
Ouais, c'est vrai, on s'y attendait pas trop, on va dire, au début de saison. Après, on a eu beaucoup de changements en interne, un nouveau sponsor titre, un nouveau équipementier vélo, donc ça a changé pas mal de choses et ça a lancé une nouvelle dynamique dès le début de saison. Et quand ça gagne, ça entretient cette dynamique et on a toujours envie de faire mieux. Et voilà, c'est un peu un cercle vicieux qui s'est installé depuis le début de l'année. On espère que ça va durer le plus longtemps possible.
Un cercle vertueux et on espère que ça va se prolonger, Valentin, jusqu'au Tour de France, parce qu'évidemment, nous, c'est ce que l'on suit avec le plus d'intention, même si on est heureux de parler de Giro avec ce début. On va vous laisser un peu tranquille quand même, hein, d'ici samedi. Le programme, voilà, il y a un peu plus de place, ce sera un peu plus roulant, vous allez quitter le nord de l'Italie un petit peu, il y aura de quoi éventuellement recharger un peu les batteries après ces deux premiers jours quand même assez intenses.
Ouais, c'est ça, là, on va avoir un programme un peu plus plat, un peu plus tranquille, même si ça va toujours être nerveux dans le final de la course. Il y a énormément de sprinteurs qui sont économisés ces deux jours et qui, dès demain, vont vouloir lever les bras. Donc ça va être assez tendu. Il va falloir pas totalement se déconcentrer, se désintéresser de la course. Va falloir rester dans le match pour pas perdre du temps bêtement sur ces étapes. Et puis après, on va arriver sur l'étape des chemins importante, très importante, et ensuite le chrono.
Le Haut-Savoyard, Valentin Paré-Peintre est avec nous, coureur de la formation Décathlon à G2R, la mondiale. T'as des bonnes jambes en ce moment, on a vu sur le Tour des Alpes, voilà, où t'as bien épaulé aussi Ben O'Connor il y a quelques semaines. On te sent bien aussi, voilà, quelles sont tes sensations?
Oh, c'est sûr, on a fait un bon stage avec l'équipe pour préparer le Giro, ça marchait bien au Tour des Alpes. Je me sentais bien cette semaine. Voilà, hier, j'ai eu un petit coup de moins bien, je pense. Le temps de se mettre en route, il faisait aussi assez chaud. Donc voilà, les sensations n'étaient pas top. Mais aujourd'hui, c'était déjà beaucoup mieux. Et je pense que ça va aller en s'améliorant. Donc je suis content de ma condition. Et je pense que ça va être bien pour les trois semaines qui arrivent.
C'est quoi ton rôle du coup pour la suite du Giro? Tu vas aider Ben O'Connor, ça c'est sûr. Mais est-ce que tu auras carte blanche pour aller chercher une étape?
C'est ça, la priorité, ça va être surtout de rester avec Ben sur les étapes importantes en montagne. Après, j'espère quand même avoir quelques opportunités pour me glisser dans une échappée et essayer de gagner une étape. Mais si je dois rester avec Ben, c'est qu'il joue très haut au classement général et je serais très content avec ça.
Oui, parce que tu veux chercher une étape. Ton frère Aurélien l'a fait l'année dernière. Quand même, est-ce qu'il y a une petite rivalité entre vous comme ça? Lui qui est déjà allé chercher une étape sur le Giro, est-ce que tu as envie justement d'égaliser comme ça et de remettre les pendules à l'heure?
Ouais, je dirais qu'il n'y a pas trop de rivalité. Après, lui, il l'a fait, on va dire, seulement l'an passé. On a 5 ans d'écart, donc j'ai encore 5 éditions pour en avoir une. Je pense que je suis assez confiant là-dessus.
Puis vous êtes dans la même équipe aussi, hein, on le précise. On arrive ou pas souvent à se voir? Tu disais que dans une interview avant le Giro que bah, vous ne vous voyiez pas souvent, que c'était aussi compliqué en fonction des préparations. Voilà, pour chacun, comment ça se passe? Parce que vous êtes quand même aussi dans la même équipe, dans le bus, il doit pas être très loin, les hôtels. On a perdu Valentin Paré-Peintre, voilà, ça coupe un petit peu, c'est normal, les routes italiennes, hein, ça a grimpé aujourd'hui.
Bah c'est ça, exactement.
On a retrouvé Valentin, vous voyez, sur ta relation avec ton frère, voilà.
Ouais, c'est sûr, on a pas besoin de beaucoup se voir, on habite pas très loin, on s'entraîne quand même souvent ensemble. Après, on n'a pas besoin de s'envoyer des messages tous les jours, ça marche un peu comme ça dans la famille aussi, avec ma sœur qui est en Auvergne, voilà, ça marche comme ça, mais en tout cas, on se croise souvent quand même sur le vélo à l'entraînement.
Merci beaucoup, Valentin Paré-Peintre, jeune coureur, 23 ans, de la formation Décathlon à J2R, la mondiale, c'est top, une heure après l'arrivée de la deuxième étape du Giro, de t'avoir, avec grand plaisir, tu es le bienvenu sur l'antenne d'RMC, et bonne suite pour ce Giro, ça ne fait que commencer.
C'est ça, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Valentin. Donc voilà, Ben O'Connor, 10e, et comme il disait, 45 secondes, même un peu moins, du podium pour l'objectif pour Ben O'Connor devant un Tadej Pogacar. Injouable, on peut le dire, hein, Johan.
Injouable, Tadej Pogacar. Ouais, on en parlait, il était le grandissime favori. Il voulait pas de cette pancarte-là, Tadej Pogacar. Il est modeste, hein, forcément. Il est diplomate aussi, le Slovène. Mais voilà, il a mis tout le monde d'accord, rien que sur cette étape-là, en prenant 27 secondes d'avance donc à l'arrivée, et 45 secondes déjà au général sur Guérin Thomas et Daniel Felipe Martinez.
Le maillot rose pour le Slovène, Tadej Pogacar. Merci beaucoup, Johan. L'Intégral Sport continue jusqu'à 19h, et dans un instant, nous serons avec le coach de la JOCR, quasiment, allez, à 99,9% en Ligue 1. C'est Christophe Pélissier, d'ailleurs auditeur auxerrois. Le 32-16 est ouvert pour vos questions à votre coach.
RMC Intégral Sport, Arnaud Valadon.
La dernière ligne droite de l'Intégral Sport jusqu'à 19h. Bartoli Time arrivera ensuite. Marion Bartoli et Jean-Christophe Drouet. Et nous avons la chance d'avoir un entraîneur heureux. C'est celui d'Auxerre. Christophe Pélissier est notre invité. Bonsoir, Christophe.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Bon, Christophe, est-ce qu'on le dit? La JA est-elle en Ligue 1? On rappelle, 6 points d'avance à 2 matchs de la fin et plus 20 en différence de but sur le troisième.
Ouais, officiellement, donc, on va dire non, mais bon, c'est vrai qu'on a 99,99 et je sais pas quoi, pour ça d'être en Ligue 1, parce qu'il faudrait vraiment un séisme maintenant pour que Auxerre soit pas en Ligue 1 l'année prochaine.
Et un pourcentage quasi identique pour le titre de champion, là, c'est 15 buts d'avance à la différence de buts sur Saint-Etienne, hein, les deux clubs, Saint-Etienne et Angers, ont le même nombre de points. Ce titre de champion, vous l'aviez évoqué juste après, hein, le titre, le match et la victoire contre le Paris FC, il y a évidemment envie d'aller le chercher puisque la JA n'a été champion de France de Ligue 2 qu'à une seule reprise, c'était en 1980, après, voilà, aussi derrière des décennies de présence en Ligue 1.
Oui, bien sûr, je crois que la saison s'est construite par étapes. Je crois que quand on descend, c'est jamais évident de repartir. Donc il y a eu quand même la première étape qui était de maintenir le maintien. Ensuite, il y a eu l'étape du play-off, l'étape de la montée, et puis la quatrième, c'est l'étape du titre pour, comme j'ai dit aux garçons, de rentrer aussi dans la très belle histoire de ce grand club.
Et vous avez, vous êtes revenu sur le goût amer de l'an passé. On rappelle, vous descendez pour un point. Tout s'était joué lors de la dernière journée. C'était à domicile contre Lens. Vous disiez qu'il y avait des larmes dans le vestiaire après cette défaite, des larmes de tristesse. Là, il y a des larmes de joie aujourd'hui.
Ouais, c'est sûr que le vestiaire, c'était pas le même, un an d'écart. Mais voilà, c'est aussi ça le sport. C'est-à-dire que, ben, des fois, il y a des moments de tristesse pour beaucoup de monde, mais il faut savoir rebondir et aller chercher d'autres choses. Donc voilà, je crois que c'est très bien aussi de comprendre que il faut, malgré des fois des moments très difficiles, ben, dans le sport de haut niveau, il faut toujours s'accrocher et qu'il y aura des jours meilleurs. Donc là, on l'a prouvé sur cette année.
Même si l'effectif a un petit peu changé, il y a quand même une ossature. Ça fait quelques années pour certains qui sont là à Auxerre. Je pense, bah, aux gardiens de Donovan Léon, Perrin, Hein, Pelnard, Joubal, évidemment, Ravelosson, Joly, qui avait été prêté, mais ça fait aussi longtemps qu'il est là à Auxerre. Ça a vraiment aidé aussi d'avoir ce noyau de joueurs qui ne sont pas arrivés là cet été seulement.
Bah, bien sûr, je crois que quand on a la chance d'avoir un noyau dur, entre guillemets, comme ça, dans l'équipe, eh bien, on s'en sert à la fois pour les automatismes sur le terrain, mais c'est aussi des garçons qui aiment le club, et qui l'ont montré en restant là, parce que quand on descend, ben, souvent il y a beaucoup de monde qui veut partir. Ils ont fait ce choix-là, et à la fois eux et le club allaient récompenser.
Est-ce que vous promettez, Christophe, les cheveux bleus comme Gauthier Hein? Ou pas?
Non, c'est ce qu'on y a dit. Bon, même il y a d'autres joueurs qui étaient pas enclins à le faire. Si tout le monde devait le faire, non. Mais bon, là, c'est un peu aussi pourquoi Gauthier se démarque, autant dans sa qualité de jeu, mais dans sa qualité aussi dans le vestiaire en tant qu'homme. Donc voilà, il faut lui laisser la paternité de ça.
Particulier quand on descend, que on reste déjà aussi sur un banc, parce que généralement quand un club connaît une relégation, il change souvent de coach. C'était pas votre cas, et d'arriver à remonter tout de suite, parce que ça avait été une telle bouffée d'air pour Lyon et la JOCR, l'Abbé Deschamps qui continue aussi de revivre, mais ce retour en Ligue 1 a réveillé quelque part le volcan iconais. Vous avez senti un parfum cette saison, voilà, les gens voulaient absolument retourner en Ligue 1.
Oui, alors ce qui est paradoxal, c'est que franchement, dès le début de saison, il y a eu un engouement incroyable pratiquement à tous les matchs, alors que le mois d'août n'est pas spécialement convaincant, puisque les deux premiers matchs à la maison ont fait nul et deux défaites. On a toujours senti les gens derrière nous, vraiment un stade, parce que ben, je pense aussi que c'est la qualité de cette équipe-là, la qualité des garçons qui ont montré que quoi qu'il arrivait, même si parfois on pouvait ne pas être brillant, mais on était toujours une équipe qui ne lâchait rien. Et je crois que ça, ils se sont identifiés. Le public s'est vraiment identifié à la qualité, à l'ADN de cette équipe-là.
C'est ce qui rend votre passage à Auxerre et ce contexte différent des précédentes expériences que vous avez eues. Je pense à Lorient, où il y avait aussi une remontée, à Amiens aussi, évidemment, pendant ces 5 années. Je mets peut-être à part l'Uznac, qui est évidemment un autre contexte et une autre aventure.
Ce que je disais un peu en rigolant, c'est que c'est la première fois que j'atteins l'objectif à part l'Uznac, vous avez dit, puisqu'on était monté à Saint-Maje-la-Fay. Mais partout ailleurs, que ce soit des montées ou des maintiens, c'était pratiquement à la dernière ou à la main. Et là, on obtient cette montée, voire ce titre à 2 journées de la fin. Donc il y a de la progression là-dedans.
On accueille Vincent, supporter auxerrois. Salut Vincent.
Salut, bonsoir à tous.
Tu peux poser ta question au coach qui t'écoute. Voilà, se acquérir quasiment 2 journées avant la fin, cette montée en Ligue 1 et très très probablement aussi le titre. Il y a du soulagement, Vincent?
Ouais, surtout du bonheur. Je vous remercie de me donner cette possibilité de remercier le coach. Et vraiment, c'est pour nous en tout cas un énorme plaisir. Moi, ça fait depuis le début 90 que je suis au stade, et c'est vrai que Là, on a vécu une saison vraiment magnifique et avec beaucoup d'émotions. Donc voilà, je voulais remercier le coach. Et puis, ben, du coup, ma question, c'était voilà, savoir un petit peu le regard qu'il avait sur Auxerre avant d'en mettre le coach. Et puis, ben, depuis un an et demi, voir si son regard a changé, s'il s'est senti soutenu en fait tout au long de la saison, et puis voir un petit peu son retour sur Auxerre, sur les supporters, et puis voilà, voir s'il sent bien, quoi.
Christophe.
Bonsoir. Ouais, bonsoir Vincent, tout d'abord. Non, mais c'est vrai que l'image que j'avais d'Auxerre, c'est un peu comme tout le monde, c'était les merveilleuses soirées qu'on nous on voyait à la télévision avec le travail qui a été fait ici par Giroud, qui a été incroyable. Et puis quand je suis arrivé, j'ai senti surtout, comme je dis, une ferveur populaire que je ne m'imaginais pas. Parce que l'année dernière, ça a été une saison très très difficile quand on joue le maintien, et tous les matchs, le public a été derrière nous d'une manière incroyable. Et comme je dis, cette saison, on est reparti et on a senti un élan populaire dès le début. Et je crois que j'étais entre guillemets sur les derniers matchs à la maison, j'étais pas inquiet parce que je sentais mes joueurs. Ils étaient dans l'obligation entre guillemets d'être bons parce qu'ils étaient tellement poussés par cette ferveur, par ce public dans un stade qui est vraiment fait pour ça, quoi. Je veux dire, c'est le public est près des joueurs et il y a un environnement, que ça soit même tous les jours où il y a un rapport entre les joueurs et le public qui est très proche. Donc pour moi, c'est quand on est coach et de travailler dans ces conditions, c'est vraiment une très bonne chose.
Surtout quand on voit ce contexte en dehors du football, pas très loin d'Auxerre à Troyes, ça s'est mal terminé. On voit beaucoup de violence, des supporters qui alpaguent les joueurs quand ils sont dans la difficulté au point de vue du classement. Je pense évidemment à Lorient et de voir, alors évidemment à Auxerre, il y a même l'année dernière, hein, quand ça se battait pour la relégation, beaucoup de bienveillance.
Oui. Mais moi, il y a un match qui m'a marqué l'année dernière, et puis en plus, il m'a marqué, j'allais dire, doublement ou triplement, parce que c'était contre Toulouse, et je suis toulousain. Et on reçoit Toulouse, on est mené 3-0 à la mi-temps. Et quand on est rentré de la mi-temps, on a senti une ferveur incroyable du public qui nous poussait. Il y a beaucoup de stades où c'est que ça aurait été un peu vécu d'une manière négative, dans notre sens. Et je sais que je m'en étais servi avec les joueurs tout le long en disant qu'on n'avait pas le droit de lâcher quoi que ce soit quand il y avait un tel public, un tel engouement autour de l'équipe. Et puis on voit que c'est un stade où c'est qu'il y a beaucoup de familles, il y a une sécurité dans le stade qui j'espère va continuer très longtemps, comme vous dites, quand on voit ce qui se passe malheureusement dans notre stade.
Merci beaucoup Vincent qui a composé le 32-16. Juste rapidement, coach, heureux de retrouver le VAR. Alors il sera en Ligue 2 l'année prochaine, mais comme vous serez en Ligue 1, vous allez pouvoir retrouver ce formidable outil.
Ouais, ce formidable outil, comme vous dites. Après, il suffit qu'il soit bien
utilisé,
parce que il y a beaucoup trop de polémiques, je trouve, sur cet outil-là. Donc j'espère que ça va être bien clarifié pour la saison prochaine, parce qu'il y a des décisions qui sont lourdes de conséquences des fois. Donc voilà, on espère que ce sera bien mieux à l'avenir.
Merci beaucoup Christophe Pélissier, l'entraîneur de la GIA. Vendredi à Amiens, puis réception de Concarneau. Je crois que c'est réservé qu'aux abonnés. Ce sera plein la folie pour la dernière journée de Ligue 2 à la Baie des Champs. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir, Christophe. Merci et bravo.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée. She's back. Ils sont de retour. Jean-Christophe Drouet, mais surtout Marion Bartoli. Welcome back, Marion.
Merci, mais vous m'avez manqué, les amis. 3 semaines, vous vous rendez compte, 3 semaines sans Bartoli. Ouais,
c'est une sacrée tournée, hein.
Mais surtout Marion Bartoli. J'ai pas bien compris. Pourquoi Arnaud? Bonjour Arnaud.
Bonsoir, bonjour Jean-Christophe.
Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Marion.
Il est jaloux.
Le retour.
Il est jaloux. une petite crise de jalousie, c'est
Marion
mignon.
Marion Bartoli, avec un invité exceptionnel, hein. Ah oui. Dans quelques instants.
On a mis les petits pains dans les grands pour
Richard
notre tour,
Gasquet,
que je te dis.
Ton ami, lui qui vient de passer les 1000 matchs en carrière, sera ton invité exceptionnel dans quelques instants. Et puis évidemment, nous allons revenir sur la magnifique qualification du Stade Toulousain pour la finale de la Champions Cup. Marion Bartoli, ça commence dans quelques instants. Restez bien avec nous. À tout de suite sur RMC.